France Inter, le 18-20.
C'est fou comme on se souvient tous d'un ou d'une prof de maths. Mon souvenir à moi s'appelle Madame Laguerre et je la salue parce qu'il y a prescription et qu'elle a vraiment fait de son mieux. Mais comment résoudre en France cette équation paradoxale ? Nous sommes le pays le plus primé en mathématiques derrière les États-Unis, mais nous sommes en bas dans les classements lorsque l'on teste les compétences des jeunes gens. Quel théorème saura nous expliquer pourquoi les performances, pourquoi l'appétence pour les mathématiques est si basse ? Le problème est tel que le ministre de l'Éducation nationale a lancé une grande réflexion qui est chapeautée par Cédric Villani qui est parmi nous ce soir, mais pas tout seul, afin de réfléchir aux méthodes d'enseignement qui sont les autres. Alors est-ce qu'on revoit tout ? Est-ce que la fameuse méthode Singapour est le Graal ? Est-ce qu'il y a une question de pratique, d'heures de cours, de niveaux d'exigence ? Et finalement, on posera aussi cette question, est-ce que c'est vraiment si grave et faut-il s'en inquiéter ? C'est à vous de jouer, soyez les bienvenus dans le Téléphone Sonne.
Fabienne Synthèse, le Téléphone Sonne.
Allez Samuel, c'est vous le premier. Bonsoir Samuel et on vous écoute.
Oui, bonsoir et merci pour vos émissions. Je voulais vous faire part de mon expérience. J'étais parti pour faire de la physique quand j'étais étudiant. Et puis j'ai abandonné et je me suis lancé dans une carrière de menuisier. Aujourd'hui, je suis artisan. Et je pratique les mathématiques au quotidien. Pas mal de trigo, un peu d'algèbre. Mais aujourd'hui, je comprends la valeur de ce que j'ai pu apprendre à un niveau peut-être un peu plus élevé que mes collègues qui sont arrêtés très jeunes, mais l'application, c'est ça qui a manqué. Trouver une raison, quelque chose qui nous explique visuellement, en tout cas, les mathématiques, ça a vraiment profondément manqué, parce que quand on est devant,
on
peut appliquer tout ce qu'on a appris, et ben là, ça a sa valeur.
Et merci beaucoup pour votre témoignage, Samuel. Question bien concrète, il y en a beaucoup d'ailleurs qui disent un peu ça aussi. Pour vous répondre, donc Cédric Villani, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes mathématicien, médaille Fields évidemment. Vous êtes aussi désormais député La République En Marche pour l'Essonne. Bonjour Martin Andler.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes fondateur aussi de l'association Animat. Et Sophie Bécheral est là aussi. Bonsoir Sophie,
bonsoir.
Journaliste scientifique à France Inter. Qu'est-ce qu'on répond à Samuel, Cédric Villani, cette remarque frappée au coin du bon sens? Finalement, les gens, les plus jeunes, comprendraient mieux les maths si on leur expliquait de manière très concrète. En fait, comme lui, le menuisier qui fait ça tous les jours.
Oui, bonsoir et merci à Samuel pour cette question. Ça rejoint un certain nombre de témoignages que je reçois régulièrement, de façon spontanée d'ailleurs, souvent par des gens croisés, des anonymes croisés dans la rue. Et effectivement, il y a deux versions. Il y a la version « j'étais mauvais en maths, j'ai pas... » Et puis un jour, j'ai compris que c'était intéressant, j'ai vu une de vos conférences ou j'ai vu la conférence d'un de vos collègues et je me suis dit « je suis passé à côté de quelque chose de passionnant ». Et l'autre version, effectivement, comme votre auditeur, c'est « je comprenais pas à quoi ça servait ». Et puis là, je me suis mis dans un truc où on l'utilise et c'est super intéressant, super utile. Et effectivement, c'est toute une problématique. Comment attirer l'attention, voire la passion des élèves, et puis comment donner le sentiment du but, de l'utilité, avec un bon dosage à trouver. Si on se concentre trop sur le sens, on en oublie la technique. En pratique, on a cependant trop tendance à se concentrer sur la technique et oublier le sens. La méthode de Singapour a tenté de systématiser cela justement en systématiquement faisant une expérience concrète suivie d'une expérience de langage, nomination, suivie d'un concept.
Pardon Cédric, il faut nous expliquer cette méthode Singapour parce que tout le monde nous en parle, il paraît que c'est le Graal, les gamins à Singapour font des mathématiques très facilement comme nous on joue au foot. Qu'est-ce que c'est que cette méthode Singapour, Martin Andler?
Il n'y a pas que la méthode de Singapour, il y a tout un contexte qui fait que l'éducation est très valorisée,
aussi.
Les professeurs ont été très bien formés, donc il y a un programme, une méthode d'enseignement qui a été mise au point, qui je pense n'est pas si différente de ce qu'on pourrait faire en France avec le niveau de réflexion qu'il y a dans les meilleurs au-delà par des meilleures personnes qui réfléchissent aux questions d'enseignement, mais il y a eu derrière, quand ils ont mis en place ce truc-là, ils ont fait un effort massif de formation des enseignants, avec des centaines d'heures de formation pour les enseignants en poste et puis pour les nouveaux. Et puis il y a aussi un contexte social et qui valorise l'étude Et aussi, et c'est très important, l'idée que pour réussir en maths, c'est pas le talent qui compte, c'est le travail qui compte. Et nous, on est un petit peu obnubilés par le talent et pas assez par le travail.
Sophie Bécherel.
Quand même, la méthode de Singapour ou d'autres méthodes un peu semblables, on nous dit qu'on manipule ou on visualise beaucoup plus longtemps, alors qu'en France, on théorise beaucoup trop tôt. Est-ce qu'on a une évaluation là-dessus ?
Cédric Villani, vous parliez de dosage tout à l'heure.
Il y a un dosage, il est difficile de faire des évaluations. On commence à voir arriver ce genre de choses et ça fait partie, bien sûr, ça fera partie des recommandations, certainement, de la mission qui nous a été confiée. Ça fera partie des recommandations que de mettre en place davantage d'outils de suivi, de cohortes, d'expériences en faisant varier les paramètres. Je souscris à ce qu'a dit Martin Handler. Il n'y a pas qu'une question de méthode et c'est tout un système qu'il faut interroger. Et pour cette mission, avec Charles Torossian, qui la copilote avec moi, nous nous sommes entourés de talents multiples. On va s'interroger aussi sur les questions de gouvernance, sur les questions de calendrier, sur les questions de formation, sur beaucoup de choses. L'indicateur numéro un de la réussite d'un système scolaire, c'est le respect que la société accorde aux enseignants. C'est pas une méthode, c'est pas une technique, c'est pas tangible, mais c'est extrêmement important.
Quand Jean-Michel Blanquer... Il suffit d'avoir un bon prof de maths pour aimer les maths, en gros, si je résume un peu vite ce que vous dites.
Ça ne suffit pas, mais c'est peut-être l'ingrédient, un enseignant passionné qui comprend de quoi il est question, une enseignante qui arrive à transmettre l'appétit. Et nos problèmes commencent à l'école primaire en France. Mmh. On a les évaluations qui montrent que, par exemple, sur des choses aussi simples que la compréhension des pourcentages et des fractions, nous sommes en bas de l'OCDE. Donc, c'est dans les petites classes que commencent les problèmes. Un problème majeur, c'est que la majorité, et on ne leur jette pas la pierre, la majorité de nos enseignants et nos enseignantes sont des littéraires de formation qui ont, pour la plupart, une aversion pour la discipline mathématique, souvent cherchent à l'éviter, à le contourner.
Mais pourtant, la voie royale, ça reste les maths. Enfin, fais un bac S, tu verras, après, tu auras plus d'horizons qui s'ouvrent. C'est quand même très paradoxal, en fait. On dit aux gamins que la voie royale, c'est celle-là. Et en même temps, finalement, ils sont malheureux dans certaines filières scientifiques.
Ce qui est très important, et quand on parle d'éducation, on pense la méthode et l'élève. Ouais, mais il y a l'enseignant qui est tellement important. Et il faut nous concentrer énormément sur les enseignants. Si nos enseignants sont malheureux, ça ne marchera pas bien. Si nos enseignants ne sont pas bien formés, ça ne marchera pas bien. S'ils ne sont pas respectés, quelle que soit la méthode qu'on applique, ça ne marchera pas.
Jean-Claude nous appelle au 01 45 24 7000 sur France Inter. Jean-Claude, bonsoir, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Bonsoir, merci. Voilà, j'interviens moi dans le cadre de périscolaire et autres, je ne suis pas du tout enseignant, et je fais des ateliers de maquettes et de construction pour des jeunes, et je leur ai expliqué une méthode qui date depuis l'Antiquité, la corde à 13 nœuds.
D'accord, il va falloir nous expliquer ce que c'est la corde à 13 nœuds. Alors, tout le monde comprend, sauf moi. Allez-y.
Voilà, le théorème de Pythagore, c'est la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse.
Ouais.
Tout le monde nage complètement, même les adultes. Et là, avec une corde à 13 nœuds qui a 12 espaces identiques, peu importe la dimension, on en met 3, on en met 4, et tout de suite arrive 5, parce que 3 fois 3, 9, plus 4 fois 4, 16, égale 5 fois 5, 25. Dans un champ, on fait un maçon aujourd'hui, c'est un angle droit parfait avec un mètre. Donc, c'est très facile à comprendre. J'ai donné la corde à un élève, il était collégien, 5e ou 6e, tu veux. Et du coup, quand je le revois, je lui dis, alors, tu en as parlé à ton prof de maths, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit, tu me rends chat tout de suite. Voilà.
Et il a rangé sa corde, Jean-Claude.
Voilà, vous pouvez tous faire une petite corde et vous allez trouver un angle droit tout facilement. Vous voyez ? C'est incroyable.
Et merci pour ce témoignage. Martin Handler, si quelqu'un arrive avec la méthode de la corde, est-ce que vous lui demandez de ranger ça tout de suite ?
Ah non, non, non. Évidemment, je lui demande de montrer à tous ces camarades-là. Mais cette deuxième intervention, comme la première, porte sur la même chose. C'est-à-dire, enseignement, et les mathématiques, c'est une discipline qui est théorique, mais qui a une mise en perspective, il y a une application, il y a une manière de les rendre concrètes. Et c'est ça qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à faire passer. Il faut pas dire il faut enseigner les mathématiques de manière concrète. Non, les mathématiques, c'est abstrait, un nombre, c'est un concept abstrait. Dès le début, et on sait que les bébés, maintenant, comprennent les nombres de manière abstraite. Mais il faut ensuite, tout de suite, et dans l'apprentissage, au fur et à mesure, passer du concret de l'abstrait au concret, mettre les choses en perspective. Alors ça vaut ici dans les exemples, la menuiserie, la corde, donc
à 13 nœuds.
Le maçon, la corde à 13 nœuds, en effet, très très important. Mais ça vaut aussi quand on fait des mathématiques un petit peu plus avancées au niveau du lycée, où il faut montrer aux enfants pourquoi on fait ça. Or, en ce moment, on a l'impression que la seule raison pour laquelle on fait les mathématiques de la classe N, c'est pour la classe N plus 1. Et jamais on dit, arrivons à quelque chose, une bonne raison de les faire.
Cédric Villani.
Oui, je vais juste mentionner que je suis d'autant plus solidaire de votre auditeur que ça m'arrive régulièrement de parler de ces cordes à 13 nœuds et du triangle rectangle correspondant dans mes conférences publiques et qu'on passe du temps pour commenter, expliquer à quoi ça sert et tout ça. Et ma deuxième remarque, c'est effectivement cette question de technique qui est souvent prédominante. Il y a un texte célèbre d'un mathématicien essayiste qui s'appelle Locard, dans lequel il déplore la façon dont le système mathématique, dont le système scolaire a tendance à enseigner la mathématique. Et il dit, ce qui est le plus important de comprendre, c'est que la mathématique, c'est un art. Et que on fait ça pour résoudre des problèmes de façon élégante, de façon puissante. On le fait avec une recherche de l'esthétique. Et enseigner la mathématique en se concentrant sur la technique, en oubliant la finalité, c'est comme si on enseignait la musique en apprenant seulement à dessiner des notes sur une partition et sans jamais écouter une mélodie.
Et c'est vrai qu'à la musique, il y a le solfège, c'est pénible, mais derrière, il y a la mélodie qui vient et il y a le plaisir de l'instrument. Un peu dans la même veine, finalement, ce message sur franceinter.fr qui vient de Jacques. Enseignement des mathématiques, d'accord, on n'enseigne que des connaissances sans former au raisonnement. Alors, pas seulement donc l'explication de la chose visuelle, mais aussi former l'esprit au raisonnement, Martin Andler.
Là, c'est peut-être un petit peu exagéré qu'on ne forme pas du tout au raisonnement. Je pense qu'on forme au raisonnement. Mais c'est vrai que ce qui reste, souvent, c'est le calcul, c'est la technique, c'est la chose la plus rébarbative de l'enseignement. Donc, il y a la musique, le solfège, il y a une autre chose, c'est est-ce qu'on voudrait faire du foot à des enfants en leur enseignant uniquement du dribble et sans jamais faire de partie de foot. Non, on ne voudrait pas faire ça. Ben, l'enseignement des maths, c'est un peu comme ça.
Rapidement, Cédric Villani, avant qu'on retourne au standard.
Qu'il soit important de bien dire ici que la mathématique, ce n'est pas l'art du calcul, c'est l'art du raisonnement. Si on passe à travers un cours de mathématiques sans avoir appris à faire des raisonnements sophistiqués, ben, on aurait aussi bien pu rester chez soi.
Allez, Christophe nous appelle au 01 45 24 7000. Christophe, bonsoir, soyez le bienvenu sur France Inter, bonsoir. On vous écoute.
D'abord, merci pour vos émissions et merci de prendre ma question. Elle sera relativement simple et courte. Est-ce qu'il n'est tout simplement pas impossible pour quelqu'un pour qui les maths c'est évident d'enseigner à quelqu'un qui, justement, lui, a un problème d'esprit mathématique, je dirais?
C'est ce que font...
Non, être professeur sans avoir une formation d'enseignant en mathématiques,
c'est ça que vous voulez dire, Christophe?
Quelqu'un qui comprend tout de suite.
Par définition, un professeur de maths, c'est quelqu'un qui était bon en maths à la base. Donc, si lui, il continue dans sa voie, il est pour passion les mathématiques, c'est quelque chose que j'admire, mais qui est totalement différent de mon esprit, est-ce qu'il peut, et je pense que c'est pas une question, c'est vraiment une question de pédagogie, est-ce qu'il peut enseigner à quelqu'un pour qui c'est complètement abscon?
Quand on comprend trop bien, est-ce qu'on sait vraiment expliquer aux autres? C'est une bonne question, Cédric Villani.
Quand on est chercheur, ce qui est notre cas à Cédric Villani et à moi-même, on est tout le temps confronté à des situations où on ne comprend pas. Donc on a l'habitude d'être en situation de difficulté. Évidemment, en principe, on ne doit pas être en difficulté quand on enseigne les mathématiques du collège et du lycée, mais on a l'habitude d'être en situation de ne pas comprendre.
Mais je comprends la question de Christophe. Oui, quand c'est tellement simple pour quelqu'un, comment peut-il imaginer qu'on ne comprenne pas en face de lui
Donc ça veut dire aussi, en effet, qu'il ne suffit pas de comprendre les mathématiques pour savoir les enseigner. Il y a une question de formation pédagogique qui est extrêmement importante. Et c'est vrai que dans notre système de formation des enseignants, en général, on a tendance à mettre l'accent sur la formation disciplinaire et pas sur la formation pédagogique.
Cédric Villani ?
Oui, la question m'évoque un célèbre ouvrage de Rosa Peter. C'est l'un des célèbres ouvrages didactiques, qui raconte la mathématique de façon très didactique. C'est une chercheuse hongroise de la première moitié du XXe siècle. Et elle raconte que l'idée de cet ouvrage lui est venue quand elle s'est aperçue comme c'était difficile, voire impossible de faire comprendre à son ami qui n'était pas mathématicien des choses qui lui paraissaient très simples. Et elle a fait l'effort de se demander comment franchir cette barrière et trouver toutes sortes d'images, de récits et de façons de faire passer le raisonnement. Donc on peut toujours, avec du travail, même si on est très très à l'aise en mathématiques, trouver les images qui permettent de se faire comprendre ce pour qui c'est pas du tout simple. Maintenant, il faut bien être clair, nos enseignants souffrent d'un manque de formation, pas d'un excès de facilité en mathématiques, et tout particulièrement la formation de nos enseignants au primaire est une vraie question. Il faut que nous les aidions à mieux maîtriser le cours de mathématiques. Très souvent, ils ou elles ont des difficultés à comprendre le sens, l'esprit du cours de mathématiques et préfèrent souvent éluder les questions ou en faire juste un petit peu en passant avec le sentiment d'avoir fait son devoir. Il y a un vrai enjeu pour que nos enseignants soient heureux d'enseigner la discipline.
Formation des enseignants, justement, c'est le sens de votre question. Émilie, bonsoir, on vous écoute, soyez la bienvenue.
Bonsoir, merci de prendre ma question. Je suis ravie d'entendre ça. Je suis enseignante en école primaire depuis 11 ans et j'ai été dans le désarroi le plus total en enseignant les mathématiques en classe de CP, de CE1, où je voyais des blocages incroyables chez des enfants en numération en dessous de 5, hein, les relations entre les nombres en dessous de 5 qui bloquaient, le 2 plus 3 qui ne passait pas, je ne comprenais pas. Et je voulais justement insister sur le problème de la formation que j'ai reçue moi à l'époque dans les IUFM, où le professeur maître formateur s'est contenté en fait de nous faire ouvrir un manuel et de nous dire, ben voilà, dans le manuel, voilà comment ça marche, etc., sans nous parler de la numération, de ce qui était en jeu dans la numération dans les petites classes. Et il a fallu, en fait, dans mon parcours, que je me forme toute seule. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré un groupe qui s'appelle Arithme École, dans lequel on a des enseignants-chercheurs et des professeurs d'école primaire qui travaillent ensemble en collaboration. Et je me suis découvert, en fait, un vrai intérêt pour les maths. J'ai compris, en fait, des choses que moi-même, en étant enfant, n'avais pas compris à l'époque, notamment sur la soustraction, qui met en jeu de la numération très importante. Et je pense qu'il y a vraiment là, on met le doigt sur quelque chose d'urgent pour la formation des maîtres à l'école primaire.
Émilie, merci. On a compris votre question et surtout votre intérêt pour les maths que vous avez dit qui a commencé à grandir, mais votre intérêt pour l'enseigner aussi. Et c'est vraiment ce qu'on entend, Émilie, dans votre question. Cédric Villani, effectivement, la clé est là, en fait.
Je crois que votre auditrice, Émilie, a tout compris. L'importance de se former, et elle est allée chercher par elle-même les moyens et les cercles pour se former. Les enseignants font beaucoup plus confiance au transfert de connaissances horizontaux entre collègues qu'au transfert de connaissances verticaux. Il y a des études qui le montrent de façon forte. Quand en plus cette démarche d'aller chercher l'information auprès des collègues s'accompagne d'un contexte où vous avez des enseignants-chercheurs qui travaillent avec des instituteurs par exemple, un contexte de discussion entre univers différents, on a tous les ingrédients pour une démarche de succès.
Cette question qui nous vient de Marilyn, la pédagogie Montessori réconcilie les fâchés avec les maths, dit-elle, et je parle d'expérience. Est-ce qu'une réflexion sera engagée sur l'introduction de cette pédagogie dans l'école publique? Cédric Valine, ça c'est plutôt pour vous.
Montessori fait partie, bien sûr, des pédagogies, des méthodes dont nous discuterons. Bien sûr, c'est toute une organisation qui est différente en Montessori. On ne peut pas juste dire qu'on va faire l'enseignement mathématique avec la méthode Montessori. Ça demande de revisiter la salle de classe, les façons d'enseigner, la formation, tout l'ensemble. Et il faut bien avoir conscience que dans l'acteur, il faut faire dans l'ensemble, il faut faire des choix cohérents, des choix qui soient aussi des choix d'équipe, des choix d'établissement, et qu'on va certainement de plus en plus parler dans notre mission, mais plus généralement dans l'évolution de l'enseignement, de la nécessaire responsabilisation accrue, à mon sens, du chef d'établissement. De la nécessité pour l'établissement d'assurer autant que possible des continuités dans les pratiques, dans les méthodes, dans la définition de ce qui se passe dans les salles de classe, et avoir une réflexion tous ensemble sur la façon dont on répartit les responsabilités.
Sophie Bécherel, pardon.
Je voulais qu'on parle de l'approche ludique. ludique parce que Montessori, c'est une approche. Et Martin Andler, vous avez longtemps présidé l'association Animat. Il y a beaucoup d'associations ou de groupes qui tentent justement une approche plus ludique des mathématiques ou par concours en incitant un esprit d'émulation chez les enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche mieux qu'une autre ? Est-ce que...
Alors, oui. Je pense que ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, les enfants soient en situation de maîtrise de leur propre apprentissage plutôt qu'en situation de passivité. Alors, en un certain sens, c'est plus facile pour les activités périscolaires parce que ça, c'est volontaire, c'est les enfants qui le font de leur propre initiative. Je pense qu'il faut, et ça, c'est une leçon que les activités périscolaires peuvent donner aux activités scolaires, à ce qui se passe dans la classe, c'est mettre les enfants en situation de responsabilité par rapport à leur apprentissage d'acteur. Plutôt qu'en situation de passivité. Je crois que c'est une des leçons des stratégies de type Montessori, c'est les enfants sont acteurs de leur propre formation plutôt que... Alors, il ne s'agit pas d'être démagogique, il ne s'agit pas à 6 ans, un enfant n'est pas complètement maître de tout, mais c'est l'apprentissage pendant les 12 ans de scolarité, du passage vers l'autonomie, vers l'âge adulte.
Mais est-ce qu'on peut se rattraper, pardon Cédric Vallini, je vois que vous voulez intervenir, juste une seconde, est-ce qu'on peut se rattraper? Si au début ça se passe mal, si on a du mal avec les calculs, comme nous l'a raconté Émilie, on a 6 ans, 7 ans, 8 ans, est-ce qu'à un moment il peut y avoir un déclic et on rattrape tout d'un coup quand on a 12, 13, ou est-ce que très tôt la bosse des maths vient ou ne vient pas?
Alors une des difficultés de l'enseignement des maths, c'est la nature cumulative. C'est extrêmement difficile d'être bon au collège si on n'a pas assimilé les principes de la numération, un certain nombre de principes de géométrie dans le primaire. C'est très difficile d'être bon au lycée si on n'a pas assimilé la géométrie qu'on fait au collège et puis le calcul littéral avec les lettres. C'est extrêmement difficile. Donc il y a une difficulté que nous avons qui est plus forte que dans d'autres disciplines. Cela dit, oui, on peut rattraper, mais c'est aussi... On a mis fin beaucoup au redoublement. Et je pense qu'on a eu raison, les redoublements ne marchent pas. Mais si on met pas en place des mesures d'accompagnement des enfants qui sont en difficulté, alors évidemment, le retard va s'accumuler.
On les perd. Cédric Villani ?
Je souscris, oui. Il est possible d'avoir un déclic, de rattraper, mais en pratique, c'est très rare. Et les statistiques montrent qu'en général, si la situation d'échec arrive tôt, elle se maintient en mathématiques, qui est, comme le disait Martin Andler, une discipline cumulative. Sur la question des jeux, je souhaitais faire une remarque. Pour l'instant, pas de recette miracle avec des jeux sérieux, serious games, comme on dit. En pratique, les évaluations montrent que avec ce qui existe déjà, les jeunes apprennent à jouer, mais pas tellement la discipline derrière, les savoirs et les compétences qu'on aimerait leur voir apprendre.
Et si on redonnait de l'importance au calcul mental ? C'est la question qu'on nous pose sur franceinter.fr. Les élèves dégainent très vite le portable, et même plus la calculatrice d'ailleurs. Est-ce que le fait d'avoir perdu cet apprentissage, est-ce que ça joue beaucoup, Martin Andler ?
Alors je crois qu'on a réhabilité le calcul mental dans le primaire déjà depuis plusieurs années. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est un apprentissage très intéressant. Et là, il y a des jeux, par exemple, qui marchent formidablement bien, comme le jeu Matador, par exemple, qui met le pied à l'étrier à des enfants sur la maîtrise du calcul. Il y a des choses qui marchent très bien. Donc, oui,
beaucoup de jeux de société, d'ailleurs.
Il y a beaucoup de jeux de
On apprend toujours les tables de multiplication par cœur à l'école, par exemple, aujourd'hui. Ça existe encore, ça, ou pas ?
Oui,
on les apprend. Donc ensuite, c'est un petit peu... Ça ne se passe pas entièrement en CP, c'est CP, CE1, etc. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Mais ce n'est pas seulement les tables de multiplication. Si on apprend... Apprendre par cœur les tables de multiplication, ça a un sens à condition que très rapidement et en parallèle, on comprenne ce que ça signifie, qu'on les mette en jeu et qu'on constate des choses. Par exemple, que 7 fois 8, ça fait 8 fois 7. On apprend ça par cœur. Puis ensuite, on se dit, pourquoi ?
Oui, absolument. Si,
s'interroge.
Je vois que vous dessinez des triangles, Cédric Villani, pendant qu'on se parle. Effectivement, ça ne sert à rien d'apprendre le théorème de Pythagore si on ne sait pas ce que ça veut dire derrière.
Oui.
Allez-y.
Alors, ma remarque aussi, c'était un intérêt important du calcul mental, au-delà du fait de manipuler des calculs, c'est le simple fait de se concentrer, qui, de nos jours, est devenu une compétence précieuse et importante. Je voudrais ajouter aussi que pour les tables de multiplication, il y a des jeunes qui juste sont incapables de les apprendre. Et c'est pas une question d'être bête ou pas, c'est de la même façon qu'il y a des dyslexiques qui peuvent être par ailleurs très intelligents et pour certains géniaux qui sont incapables d'apprendre à lire, certains sont incapables d'apprendre leur table de multiplication pour des questions cognitives. Et dans ce cas-là, il faut pas s'en faire surtout.
Je suis passé à côté des mathématiques, nous dit Laurence sur franceinter.fr. Lors de ma scolarité, j'ai un rêve secret depuis toujours, avoir accès à ces savoirs mathématiques. Quelle est la porte d'entrée pour l'adulte de 46 ans que je suis ? Martin Andler, est-ce que c'est trop tard pour Laurence ?
Ah non, il y a beaucoup de ressources disponibles, des conférences. Bon, ben, Cédric Villani vient de sortir toute une série de 8 conférences qui sont disponibles, des petits films. Donc il y a des DVD à regarder qui sont une bonne manière d'entrer. Il y a d'autres ressources, il y a beaucoup de livres de vulgarisation qui sont excellents, qui permettent d'entrer dans des mathématiques. Donc non.
Lisez Denis Gage, le regretté Denis Gage.
Denis Gage. Bon, il y a Michael Launay qui a écrit un bouquin qui a eu énormément de succès. Il y a 2 ans à peu près.
Je recommande encore le livre de Rosa Peter aussi, qui s'appelle « Jeux avec l'infini », un joli titre. Il y a effectivement une belle offre de vulgarisation accessible.
Mais voyez Laurence, tout un univers vous est ouvert. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Je vous en prie, allez-y, on vous écoute.
Donc c'est pour un double témoignage. Le premier, c'est sur comment moi on m'a appris la trigonométrie. À mon époque, en 3e, on nous apprenait des formules, il fallait apprendre par cœur que le cosinus est le côté opposé sur l'hypoténuse, et puis apprendre ce maudit tableau.
Plus ou moins. Je vois Martin Andler qui fait comme ça avec la tête.
Et puis apprendre ce fameux tableau pour 45 degrés, 90 degrés, les valeurs qui sont plus ou moins obscures quand on est en 3e. Et c'est seulement en 1ère qu'on découvre le cercle trigonométrique, et qu'on comprend ces formules, on comprend ces valeurs, on peut retrouver ces formules et ces valeurs, mais grâce à ce cercle qu'on n'a pas le droit d'aborder avant. Et je trouve ça assez dommage, puisqu'apparemment, ma mère me racontait qu'à l'époque, on apprenait la trigonométrie grâce au cercle, chose qu'on ne faisait plus. Et le deuxième témoignage, c'est justement ma maman qui était professeure de mathématiques, qui est devenue professeure parce qu'elle a subi les cours magistraux de mathématiques dans sa jeunesse. Donc elle a dit pas ça pour mes futurs élèves, et qui a pu constater que souvent la difficulté, c'était que les élèves comprenaient pas les énoncés de mathématiques. Donc c'était plus un problème de lecture et de français finalement que d'application concrète des mathématiques.
Merci beaucoup Aurélie. Il y a quelques questions dans ce sens, effectivement, Cédric Villani. On va commencer par la deuxième partie de la question d'Aurélie. Effectivement, les énoncés des problèmes de mathématiques, d'abord, si on ne les comprend pas, il n'y a aucune chance qu'on arrive à résoudre le problème.
Tout à fait. Et il y a une vraie question sur la maîtrise de la langue, parfois sur l'apprentissage de la langue et des mots aussi. Et on constate aussi que les élèves, souvent, ont tendance à lire les énoncés trop rapidement, rechercher les mots-clés, répondre en combinant les mots-clés au hasard. Mais c'est un vrai exercice, une compétence qui s'acquiert de comprendre l'énoncé dans sa globalité.
Ils ne sont pas toujours tous irréprochables non plus, les énoncés.
Des fois, il y a des énoncés qui n'ont aucun sens. Il y a des énoncés qui
sont...
Absolument.
Oui,
c'est la Baruch avait fait avait des perles hilarantes là-dessus, absolument. Et par rapport à l'autre partie aussi, c'est toujours tellement dommage quand on entend dire...
La trigonométrie.
Oui, mais quand on entend dire... Voilà,
j'ai pas eu le droit.
À cette méthode où l'enseignant m'a interdit, que ce soit interdire de sortir la corde à 13 nœuds ou interdit de dessiner un cercle,
interdit de compter sur ses doigts. Moi,
vous avez connu ça ?
Voilà.
Enfin, moi, si j'avais pas le droit de compter sur mes doigts, je serais en difficulté parfois.
Ça me rassure. La liberté. On ne doit pas interdire les méthodes.
Voilà, il est 19h51, il nous reste donc, je compte sur mes doigts, 19h52, 53, 54, donc on a encore un peu de temps. C'est ce que vous disiez, Martin Andler, tout à l'heure, ce que disait Aurélie sur la trigonométrie. On apprend des choses, mais on ne sait pas pourquoi on les apprend. Mais si on ne les a pas maîtrisées d'abord, on ne comprendra pas ce qui se passe 2 ans plus tard. Quel dommage quand même.
Oui, c'est terrible. En plus, même avec ou sans cercle trigonométrique, on peut faire vivre la trigonométrie. La trigonométrie n'a pas très bonne réputation, ça paraît être vraiment très très technique, abscon, etc. Mais enfin bon, cosinus de 30 degrés ou cosinus de 60 degrés, c'est quelque chose qui peut se mettre en perspective. On peut regarder les merveilles d'un triangle équilatéral et découvrir des tas de choses.
Voilà, les merveilles d'un triangle équilatéral. Bonsoir Antoine, soyez le bienvenu. Vous aussi, vous voyez des merveilles dans le triangle équilatéral.
Oui, bonsoir. Je voulais intervenir sur 2 choses. Bon, j'enseigne depuis plus de 30 ans. Et lorsque j'étais en fac à l'époque où j'ai choisi d'être enseignant, grâce surtout à mes deux profs de maths majestueux que j'avais eus en quatrième et en terminale, qui m'ont donné ce goût, non seulement pour la matière, mais aussi le goût pour l'enseignement, j'ai eu beaucoup de sollicitations pour faire autre chose que prof de maths lorsque j'ai terminé mes études. Et c'est vraiment cette vocation qui a fait qu'aujourd'hui je suis encore enseignant, parce que c'est compliqué, on peut être attiré par des salaires beaucoup plus élevés ailleurs, on peut être attiré par d'autres choses, et c'est vraiment aujourd'hui pour un jeune, et moi je voudrais juste dire aux jeunes qui sont en fac aujourd'hui et qui ont envie d'être enseignants, ne regardez pas les chimères de ce qui pourrait vous attirer, et faites ce métier, c'est un super beau métier, les maths c'est magique enseigner, et surtout, si vous avez ça dans la peau, allez-y. Et le salaire, c'est pas grave. Voilà.
Formidable, Antoine. Forcément, Cédric Villani, il vous faut plein d'Antoine.
Oui, je n'ai rien à ajouter. Tout est dit. C'était magnifique. Dit. Et on a besoin de rappeler à quel point le métier d'enseignant est un des fondements de la société et de la nation. Antoine, on a besoin de vous et vous l'avez exprimé magnifiquement.
Sophie Becherel.
De la même manière qu'en France, on a, vous l'avez rappelé, Fabienne, des médailles Fields, beaucoup, mais aussi un très faible niveau, enfin un grand écart entre les plus forts et les plus faibles. Dans une classe, comment les enseignants peuvent-ils gérer la grande différence de niveau? Est-ce que votre commission y réfléchit? Est-ce que ce sera un des points clés?
Nous y réfléchissons. C'est un des points clés. C'est difficile d'abord. Évidemment, en petit groupe ou en grand groupe, ça change les choses, à condition qu'on ait des enseignants formés. Ça faisait partie du débat sur le redoublement des classes de CP, mais ça était bien identifié que ce sont des enseignants plutôt chevronnés qu'on a eu, qui ont eu ce traitement. Et sur la question de la différenciation, l'expérience montre que les méthodes dans lesquelles on essaie que ce soit un peu à la carte pour les uns ou pour les autres fonctionne moins bien que les méthodes qui sont faites pour s'appliquer à tout le monde. Je dis pas que dans la méthode, on cherche pas une variété de choses, mais la même variété pour tout le monde, disons. En pratique, pour l'instant, la méthode unique marche mieux, donne des meilleurs résultats. Il y a plein d'effets contre-intuitifs dans l'éducation qu'on voit qu'à l'usage. Par exemple, une étude a montré que les pays qui ont investi de façon importante dans le numérique pour améliorer leur enseignement, globalement, ont vu leur niveau d'éducation baisser. Et on ne pouvait pas le savoir avant de faire les études et les tests.
Pierre, Martin Andler.
Une manière de gérer cette hétérogénéité, c'est de demander aux plus forts d'expliquer aux plus faibles. C'est d'ailleurs ce qui se pratique beaucoup dans les pays asiatiques. Les plus forts aident les plus faibles. Et en aidant les plus faibles, ils approfondissent leurs propres connaissances. Enfin, il y a d'autres possibilités.
Il y a des professeurs qui trouvent ça, des parents qui trouvent ça pénalisant pour leur enfant s'il est fort. Alors que non, les études montrent que ça renforce les compétences chez celui qui est le plus fort.
Donc oui, maintenant on peut aussi, comme on fait faire des exercices aux enfants, on peut avoir des feuilles d'exercice qui sont un peu différenciées, avec pas les mêmes exercices pour tout le monde. Ça, c'est pas très compliqué à gérer.
Absolument.
Dans le travail à la maison.
Baptiste nous appelle. Bonsoir Baptiste.
Oui, bonsoir.
Vas-y Baptiste, on t'écoute. T'es en première S, c'est ça?
Ouais, voilà, je suis en première S dans un lycée de banlieue, de banlieue parisienne. Et en fait, je me demandais si ce serait pas plus efficace, même au primaire, pour expliquer les mathématiques, pour que ce soit une science un peu moins obscure. Si on pouvait parler de l'histoire, en fait, de mathématiques, et pour montrer que c'est assez concret. Et que les mathématiques ont été utilisées à la préhistoire au départ, et puis ensuite qui ont été au 6e siècle reçues par les Grecs. Alors je sais pas comment font les autres pays, mais expliquez déjà très tôt cette histoire des mathématiques.
Merci beaucoup pour ta question, Baptiste. Martin Andler, il a raison, ça donne aussi de l'intérêt de savoir que...
Évidemment. La question, c'est vraiment la mise en perspective. Si on arrive, on dit, voilà... Je vous donne une définition, et puis maintenant, voilà une conséquence de la définition, on a raté son coup. Ce qu'il faut, c'est pouvoir mettre les choses en perspective, soit en disant, on a donné cette définition, mais on a donné cette définition parce que c'est arrivé à un certain moment historique du développement des mathématiques, on est arrivé à tel concept, et puis qu'est-ce qui se passe après, c'est-à-dire comment c'est mis en jeu dans des applications, dans des situations concrètes, etc. Si on se contente de donner la définition, à ce moment-là, on rate complètement son coup. Non, Baptiste a tout à fait raison, c'est une des manières de faire. Aussi de raconter des histoires. Cédric Villani est très fort pour raconter des histoires.
Et effectivement, ça n'existe pas dans les salles de classe, Cédric Villani. Pas du tout. Parce qu'il faut aller au programme, parce qu'il faut se dépêcher d'expliquer,
parce qu'on n'a pas assez de temps. On manque de temps, Sophie Bécherel a raison, et on est souvent trop obnubilé par le fait de tout faire dans le programme. Certainement qu'il faut collectivement apprendre à approfondir un nombre de sujets pas trop grand, plutôt que de vouloir tout traiter. Je voudrais aussi ajouter que sur toutes ces questions, la façon de présenter les choses, le rôle aussi de la technologie, le rôle du numérique. On a vu combien c'est difficile, semé d'embûches, et parfois ça peut paraître décourageant, mais il y a aussi des expériences sur tous ces sujets qui fonctionnent très bien. Et ça va faire partie de notre mission que de faire des recommandations pour que ces expériences puissent se multiplier, qu'on utilise mieux la technologie, qu'on utilise au mieux la réussite et les bonnes idées des uns et des autres.
Voilà, bah écoutez, je voudrais laisser le mot de la fin à cet auditeur qui nous a écrit sur franceinter.fr. Dommage qu'on n'ait pas son prénom, qui dit « Je suis prof d'art plastique. Les mathématiques me fascinent aujourd'hui, mais je n'ai jamais compris quoi que ce soit à partir de la classe de 5e, tellement la discipline était désincarnée. J'ai tardivement pris conscience que les mathématiques sont aussi une autre forme de poésie. » Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé au téléphone sonne. Bonne soirée.